Vous écoutez
RMC.
Jeudi 1er décembre,
l'info sur RMC.
Il est 8h, excellente matinée à vous tous, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. C'est l'heure du journal de Marguerite Dumont, bonjour Marguerite.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le plan de bataille du gouvernement pour préparer les coupures d'électricité cet hiver, notre vie quotidienne pourrait être chamboulée. Le plan des syndicats contre la réforme des retraites, il reste mobilisé alors que commencent aujourd'hui les discussions sur l'âge légal de départ. Et puis le plan des Bleus pour affronter la Pologne dimanche, 8e de finale, la France favorite.
Et on se projette ce matin dans une France sans électricité.
Le gouvernement anticipe des coupures organisées cet hiver si jamais il fait trop froid, si jamais la production d'électricité ne suit pas. Elisabeth Borne a jusqu'à ce soir pour envoyer son mode d'emploi au préfet pour qu'il prépare le terrain dans leur département. 60% des Français pourraient être impactés. Romain Houg, comment sera-t-on prévenu ?
Eh bien, si tous les recours pour soulager le réseau ne suffisent pas, alors une alerte sera émise 3 jours avant la potentielle coupure dans les médias et sur l'application EcoWatt, puis la veille seulement. Les autorités décideront de couper ou non le courant et de vous en informer. Des coupures qui dureront 2 heures par jour au maximum lors des pics de consommation entre 8h et 13h ou entre 18h et 20h. Aucun département ne sera entièrement privé de courant, ce sera par zone et jamais la même zone ne sera délestée 2 fois de suite.
On le précise, les pompiers, commissariats, gendarmerie, hôpitaux ne seront pas concernés par ces coupures. En revanche, les écoles, oui, Romain.
Oui, parce qu'elles sont considérées comme des établissements non critiques. En cas de coupure, elles seront fermés le matin, puisque les coupures du soir interviendraient après la fermeture des écoles. Pour Najat Bellassène, présidente de la FCPE Val-de-Marne, il va falloir que les parents soient prévenus bien assez tôt.
Merci. Les parents ne sont pas flexibles, si vous voulez, en termes d'horaire, de travail, etc. Donc, il faut bien évidemment qu'ils soient prévenus suffisamment à l'avance pour prendre leur disposition. Et encore une fois, ce sont les parents qui vont devoir faire les frais de cette situation et c'est bien dommage.
Enfin, il faudra limiter ses déplacements en voiture puisque les feux de signalisation également seront hors service en cas de coupure. Même problème sur le réseau ferroviaire, des trains pourraient aussi être annulés.
Merci Romain. Les numéros de secours pourraient être aussi impactés. On en parle tout de suite après ce journal. Sébastien Krebs du service politique d'RMC nous a rejoint. Bonjour Sébastien.
Bonjour Marguerite.
Le gouvernement prépare les esprits, c'est un dossier à haute tension.
Oui, clairement, il y a une accélération dans la communication ces derniers jours parce que les scénarios ne sont pas bons. La moitié des réacteurs nucléaires sont toujours à l'arrêt. On est touchy, dit-on, dans l'entourage d'un ministre. Clairement, il s'agit d'éviter le pire, le blackout total. Mais évidemment, voilà un irritant de plus à craindre sur un mois de janvier déjà extrêmement délicat pour le gouvernement. Il y aura la réforme des retraites, il y a les prix de l'énergie qui vont augmenter. Et là, on parle maintenant de couper le courant aux Français pile à l'heure où ils rentrent chez eux. Alors la consigne est venue de l'Élysée, tout faire pour éviter les coupures. Il ne faut pas que ce sujet soit mis au centre. Comprenez, on dédramatise, on anticipe, on informe. Le message, ce sera en cas d'alerte. Si chacun joue le jeu, eh bien, il n'y aura pas besoin de couper. Voilà la clé au gouvernement, mise sur la responsabilité de chacun, avec en tête le souvenir de la crise Covid, dans laquelle les Français avaient été particulièrement résilients.
Et ne manquez pas les précisions, les réponses d'Olivier Véran. Il sera mon invité à 8h30, le porte-parole du gouvernement. Je vais lui poser toutes ces questions très concrètes sur le scénario donc, de ces coupures d'électricité.
Un autre sujet explosif, la réforme des retraites. Dernier cycle de discussion aujourd'hui autour de l'âge légal de départ, 64 ou 65 ans, c'est ce que veut Emmanuel Macron. Mesure rejetée en bloc par les syndicats. La riposte se prépare avant même la fin des concertations. Dès lundi, toutes les centrales se réuniront pour décider d'une mobilisation à la rentrée en janvier. C'est ce qu'explique Michel Beaujas du syndicat FO.
Il est faux de dire à aujourd'hui que le régime des retraites en France est déficitaire. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité. Et donc, nous allons aller rappeler ça. S'il maintient sa proposition que de reculer l'âge de départ à la retraite, à 65 ans, ou d'allonger la durée de cotisation, eh bien, en intersyndical, mais nous, force ouvrière également, eh bien, nous appellerons les salariés de ce pays à se mobiliser. Et si le gouvernement cherche le rapport de force, eh bien, il nous trouvera face à lui. Et pourquoi pas la grève reconductible pour qu'il y ait un blocage du pays, pour que le gouvernement recule.
La réforme des retraites présentée a priori le 15 décembre. Contexte social tendu donc, la preuve de grève. Celle des médecins généralistes aujourd'hui et celle des contrôleurs de la SNCF demain et tout le week-end. Week-end noir, 60% des TGV et intercités supprimés. Mobilisation pour les salaires qui pourraient se poursuivre à Noël et pour le jour de l'an. La facture des courses, elle va continuer de grimper en 2023, mais à quel point supermarchés et industriels de l'agroalimentaire reviennent une nouvelle fois à la table des négociations pour discuter aujourd'hui des prix de l'an prochain.
RMC 8h05, deux jeunes jugés à Grasse ce matin après une fusillade dans un lycée.
L'effroi il y a 5 ans au lycée Tocqueville, pour la première fois en France, un adolescent de 16 ans a visé avec un fusil à pompe plusieurs élèves et le proviseur de l'établissement blessé. Marion Dubreuil du service police-justice d'RMC, Kylian explique avoir agi par vengeance.
Oui, Kylian voulait se venger d'une dizaine de camarades. Celui qu'il trouvait trop efféminé, celle qui parlait dans le dos des gens, une autre qui le traitait de moins que rien. Le lycéen, fasciné par la tuerie de Columbine, avait tout prévu, dérober les armes de son grand-père pendant que son ami, Lucas, le deuxième accusé, faisait le guet, et puis frapper un jeudi midi, le jour où sa classe était au complet. Mais le 16 mars 2017, Kylian s'est trompé de salle. Il a ensuite erré dans son lycée. Il a tiré sur plusieurs élèves et son proviseur avant de se rendre au policier. En garde à vue, il a immédiatement avoué son projet mortifère. Mais au fil de l'instruction, l'adolescent, aujourd'hui âgé de 22 ans, a évolué dans ses déclarations. Il explique avoir surjoué pour se faire passer pour quelqu'un de fort, à une époque où il était enfermé dans une bulle de haine et de violence.
L'adolescent court jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.
RMC Coupe du Monde 2022.
On connaît le prochain adversaire de la France en 8e, la Pologne. Ça sera dimanche à 16h. En attendant, Loïc Braillet nous attend en direct depuis Doha. Loïc, a priori, la Pologne devrait être un adversaire à la portée des Bleus.
Oui, ce n'est pas l'adversaire le plus sexy pour l'équipe de France, mais peut-être le plus abordable. Cependant, ce sera un adversaire très solide défensivement, qui n'a encaissé ses deux premiers buts dans la compétition que hier face à l'Argentine. Les Bleus vont faire face à un bloc très très bas, très regroupé, et ils auront en gros 90 minutes, voire un peu plus, avec d'éventuelles prolongations pour trouver la clé de ce coffre-fort polonais. Le gardien de la Pologne, Szczęsny, est en pleine confiance. Il a arrêté deux pénaltys depuis le début du mondial. Et puis attention à la star, capitaine, avant-centre de cette équipe de Pologne, Robert Lewandowski, ancien du Bayern Munich, aujourd'hui au FC Barcelone, qui a été durant ces dernières saisons l'un des meilleurs buteurs européens. À 34 ans, il vit sans doute sa dernière Coupe du Monde et aura à cœur de jouer un vilain tour aux Français. Mais en termes de talent, il n'y a pas photo. Les Bleus sont largement au-dessus et largement favoris pour ce 8e de finale.
Loïc Braillet, envoyé spécial RMC à Doha. Les Bleus qui ont perdu hier, hein, je le rappelle quand même, face à la Tunisie, 1-0. Défaite en suspens. La France a déposé une réclamation auprès de la FIFA après l'annulation du but de Griezmann dans les toutes dernières secondes. Et puis je vous signale aussi que l'Australie affrontera l'Argentine pour ses huitièmes de finale. Les matchs du jour, on y va. 16h, Croatie-Belgique, Canada-Maroc. À 20h, ça sera le Japon contre l'Espagne. Et puis l'Allemagne contre le Costa Rica, arbitrée par une femme, une première depuis 90 ans, et c'est une Française, Stéphanie Frappard.
Forcément, il y aura plus d'attention, plus de médias. Mais en tout cas, moi, j'ai fait des grosses compétitions, des grands matchs. À chaque fois que j'ai été sur une grosse compétition ou un grand match, c'était toujours historique. Donc j'ai un peu l'habitude de ce poids-là et j'en fais pas une montagne.
Stéphanie Frappard qui n'en fait pas une montagne, elle est humble et elle arbitrera ce match Allemagne-Costa Rica.
Et ce sera donc évidemment à suivre sur RMC. Il est 8h08, c'était le journal de Marguerite Dumont.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
En cas de coupure d'électricité cet hiver, le téléphone sera coupé et ce serait aussi valable pour les appels d'urgence. Dans un instant, le patron de la Fédération des Télécoms, Michel Combeau, lance l'alerte sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h11, belle matinée à tous.
Le parti pris.
Le parti pris, c'est le vôtre. Michel Combeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de la Fédération des Télécoms. Le gouvernement commence à nous préparer à l'idée qu'il y aura des coupures, des délestages, comme on dit, des coupures d'électricité cet hiver. Et un détail vous inquiète et vous alertez ce matin, c'est que sans électricité, il n'y aura pas de téléphone.
Exactement, nous avons alerté le gouvernement depuis plusieurs mois sur les conséquences importantes des délestages tels qu'ils sont envisagés, c'est-à-dire l'arrêt par zone entière, plus d'électricité pour les foyers, mais aussi plus d'électricité pour les antennes. Ce sont des conséquences importantes, notamment pour l'acheminement des appels d'urgence. Nous travaillons bien entendu avec le gouvernement pour essayer de voir ce que nous pouvons conserver comme couverture, notamment pour le 112, mais pour l'instant, nous n'avons aucune garantie.
Aucune garantie. Alors, donc, quand le gouvernement dit non, mais ça va être hyper ciblé, ça va être quasiment de la dentelle, vous vous dites, attention, en fait, c'est pas possible de faire ça. En fait, on peut pas faire à ce point dans la dentelle.
Alors, nous aurions aimé que les délestages visent à des points précis, notamment nous aurions aimé que les antennes soient préservées pour permettre l'acheminement des appels d'urgence. Et on le rappelle, nous avons 60 000 mâts et pylônes sur l'ensemble du territoire. C'est donc un réseau très dense. Et donc même si vous arrêtez une petite zone, ce sont énormément d'équipements qui vont être arrêtés en même temps. Et nous ne sommes pas sûrs que les antennes qui seront à côté pourront prendre le relais pour acheminer les appels d'urgence.
Parce que ce que dit le gouvernement depuis hier, mais pour le coup c'est une des premières questions que je poserai à Olivier Véran tout à l'heure à 8h30, des questions très concernantes sur notre vie quotidienne, sur quelles seront les populations ciblées, à quelle heure, combien de temps ces coupures. Mais sur cette question des appels d'urgence, le gouvernement dit non, mais il n'y a pas de problème, vous appellerez le 112, parce que le 112, ça borne n'importe où. C'est-à-dire, en gros, que vous soyez chez SFR, Orange ou Bouygues, quoi qu'il arrive, vous pouvez appeler le 112. En fait, ce que vous nous dites ce matin, vous qui êtes en charge justement de ces pylônes, c'est que ça ne marche pas comme ça, quoi.
Pour l'instant, nous n'avons aucune assurance. Il faut le rappeler, alors, dans des zones où des antennes existent à côté, oui, effectivement, les abonnés peuvent, par le 112, se raccrocher une antenne. Mais par exemple, si on pense à une zone rurale, vous avez un seul pylône à des kilomètres à la ronde. Si ce pylône, lui, est éteint, les gens n'auront aucune possibilité pour passer des appels d'urgence. C'est bien notre demande d'arriver à mieux cibler ces délestages.
C'est possible de mieux cibler. Parce que le gouvernement raconte que ce sera une France en tache de léopard. Alors, j'ai réfléchi hier. Non, honnêtement, ça a mis à peu près 5 minutes à fonctionner dans mon cerveau. La tache de léopard, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a en fait des taches un peu partout sur le territoire pour qu'aucun territoire ne soit moins bien loti que d'autres. Mais ça, pour vous, ça paraît absurde.
Bah, c'est ce que nous essayons de comprendre, sachant que ces fameuses
taches. Si vous n'avez pas compris, que moi j'ai pas compris.
C'est ce que, en plus, ces taches de léopard ne seront communiquées aux usagers et à nous que quelques heures avant l'arrêt électrique, ce qui nous laisse finalement très peu de temps pour se préparer et, le cas échéant, essayer d'optimiser les réseaux pour continuer à acheminer les appels d'urgence. Et ça fait plusieurs mois que nous alertons au gouvernement. Ce choix technique qui a été fait notamment par Enedis est assez complexe et a des conséquences très importantes pour le quotidien des Français.
Complexe et inquiétant.
Parce que là, on ne parle que des appels d'urgence, mais s'il y a un délestage dans ma région, ça veut dire que pendant quelques heures, une journée, je ne peux plus téléphoner du tout, je ne peux plus aller sur Internet, j'ai plus de 4G, j'ai plus de fibre, j'ai plus de connexion du tout.
Exactement. Alors, bien entendu, les hôpitaux, les centres des pompiers seront préservés et l'acheminement vers eux des communications seront préservées, mais les foyers, par contre, eux, n'auront plus ni d'Internet.
Ça veut dire que nous, vous dites, il y a quand même des chances qu'on puisse plus appeler, plus avoir Internet, etc. Mais par contre, est-ce qu'il y a la garantie qu'au bout du fil, alors, si on ne peut pas les appeler, ça leur fait une belle jambe, enfin, oui, au bout du fil, eux, ils peuvent recevoir. C'est-à-dire que quand vous travaillez dans un centre d'appel du SAMU, par exemple, eux pourront recevoir les potentiels appels.
C'est bien entendu notre responsabilité d'opérateur d'importance vitale de préserver les communications vers les hôpitaux et vers les centres de pompiers.
Michel Combeau, directeur général de la Fédération des Télécoms. Vous restez avec nous, je voudrais qu'on entende l'inquiétude de Jean-Christophe qui nous appelle de Troyes. Bonjour Jean-Christophe.
Oui, bonjour.
Jean-Christophe, depuis hier, ça vous inquiète. Vous êtes viticulteur, vous avez des enfants, on a tous des familles. Et, oui. Et en fait, on se projette et on se dit, mais comment on va faire, quoi?
Bah, c'est ça, moi je trouve ça, enfin, cette gestion du gouvernement, ça devient quand même aberrant parce que ça fait quand même plus d'un an qu'on fait ça. Là, c'est pas les conséquences de la guerre en Ukraine. On avait déjà une ministre l'année dernière, au mois d'octobre-novembre l'année dernière, qui avait déjà des...
Oui, c'était Barbara Pompili à l'époque, je me souviens, qui parlait des blackouts.
Voilà, c'est ça, ouais. Donc, ça veut dire que depuis un an, on n'a rien fait pour que ça s'améliore. On n'a pas essayé de trouver des solutions. On devient un pays du tiers-monde, on a l'impression. Quand on dit qu'on va le voir que quelques heures avant, ça veut dire que vous avez vos enfants à l'école, ils vont couper l'électricité, on va vous dire, demain, débrouillez-vous demain matin. Faites ce que vous voulez avec vos enfants. Enfin, je sais pas, le pays va être encore à l'arrêt. Enfin, c'est comme la carte EcoWatt que vous avez montré, ça. On a une carte pour le Covid, maintenant une carte pour l'électricité. Ben, c'est anxiogène, quoi. Enfin,
oui, c'est très anxiogène.
Heureusement que j'écoute la radio, parce que sinon, ouais, j'aurais ça tout le temps à la télé.
Mais vous savez que sans rigoler, Jean-Christophe, il y a un produit qui cartonne en Allemagne, c'est les radios à manivelle. Vous savez, les radios à l'ancienne qui fonctionnent sans électricité, sans pile. Pour pouvoir écouter RMC et qu'on puisse vous dire, attention, dans quelques heures, demain, parce que ça va passer par les médias. Honnêtement, je pense que dès aujourd'hui, alors moi, tout le monde s'est moqué de moi parce que j'ai acheté un petit panneau solaire à déployer sur mon, voilà, voilà, sur ma fenêtre, mais parce que c'est vrai que je pense, et je me sentais ridicule en le faisant, mais je pense que ça crée une inquiétude et une forme d'angoisse. Jean-Christophe, je voudrais que Michel Combeau puisse nous préciser ces choses-là. Est-ce que vous discutez main dans la main avec le gouvernement, ou est-ce que, en effet, comme le dit Jean-Christophe, on a quand même un peu l'impression qu'ils sont pris par le temps et par une forme de manque d'anticipation?
Alors, nous avons alerté les conséquences d'un arrêt par zone, effectivement. Nous l'avons alerté depuis presque 8 mois, parce que nous avions déjà eu ce genre de discussion en février de l'année dernière, où justement Enedis anticipait des potentiels délestages. Nous sommes en novembre, nous discutons bien entendu avec le gouvernement pour essayer de voir comment optimiser les choses, mais c'est vrai qu'on a effectivement pris beaucoup de retard.
Et avant de vous voir, je dois avouer que ce matin je me suis dit, mais est-ce qu'on n'est pas en train de jouer à se faire peur? Est-ce que c'est sérieux? Je comprends à votre mine grave ce matin que oui, c'est sérieux.
Alors, c'est effectivement sérieux, hein, parce que notre ambition, nous, en tant qu'opérateur, c'est de se préparer toujours au pire. Quand le confinement est arrivé, nos raisons ont tenu parce que nous étions préparés. Là, notre enjeu, c'est de nous préparer. Nous espérons que les délestages n'arriveront pas, mais s'ils arrivent, nous devons être tous préparés, notamment sur les appels d'urgence.
À cet instant où on se parle, on n'est pas tout à fait préparé et que reste un bon nombre de détails, de précisions et notamment de cartes géographiques à avancer. Michel Combeau, merci d'être venu alerter ce matin sur RMC. Vous qui êtes directeur général de la Fédération des Télécoms et qui alertez notamment sur cette question du réseau de téléphone, y compris pour les appels d'urgence en cas de délestage. Il est 8h18.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
C'est tous les jours de manche. Arnaud de Manche qui s'installe dans ce studio. Bonjour Arnaud.
Bonjour à tous. Alors je voulais revenir sur la chronique de mardi.
Ah.
Oui, parce que j'ai parlé du jeu antifasciste que la FNAC avait censuré sous pression de l'extrême droite. Elle a fini par le remettre en vente et il est même en rupture de stock. Alors, j'ai appris depuis que mon spectacle était censuré par la FNAC. Je vous invite à faire cesser cette censure en commandant immédiatement vos places pour la liberté. Non, surtout, sans déconner, suite à cette chronique, j'ai eu pas mal de messages. Oui, Arnaud Demanche, l'humoriste bobo gauchiste qui défend les antifas. Bon, alors, c'est un peu toujours le même profil. Hein, c'est des gens qui ont un drapeau français et une fleur de lys dans leur bio Twitter, avec une photo de militaire ou un logo Reconquête. Vous savez, c'est des gens qui brandissent Samuel Paty dans toutes les conversations. Mais bon, qui sont quand même un peu embêtés quand on pense différemment d'eux. Et donc, je suis un bobo gauchiste islamo-wokiste à cheveux bleus.
Alors, Freud sur disait, les cheveux bleus, en tout cas,
sur
moi,
les cheveux bleus,
témoigner,
vous pouvez démentir.
Non,
oui.
Non, je dément.
Freud disait tout est sexuel, eux, c'est tout est gauchiste. Et donc, j'ai lu Manu Le Chypre est gauchiste.
C'est
une découverte. J'ai lu Charles Magnien avec sa barbe de gauchiste. Alors, méfiez-vous, Charles, votre barbe, votre Mélenchon la nuit quand vous la regardez pas. Hein. J'ai lu La gauchiste Apolline de Malherbe. Et c'est vrai, vous étiez à Quotidien hier, le repère des bobos gauchistes. Il est temps de le révéler. Le mari d'Apolline est un sans-papier afghan. Elle a fait 4 enfants pour toucher les allocs, Apolline de Malherbe.
Et toujours pas, putain.
Elle l'a rencontré alors qu'elle manifestait dans un camp de migrants avec Amélie qui distribuait des formulaires de demande d'asile en Wolof en disant RMC s'engage pour vous. Et alors, ce que j'ai vu de mieux, c'est RMC, c'est gauchiste, c'est devenu la nouvelle France Inter. À France Inter, ils ont dû s'étrangler en voyant ça. Merde, on a eu tout faux. Dégagez Guillaume Meurice. La nouvelle gauche, c'est Willy Schren. Ça donnerait quoi, RMC France Inter? Bonjour, bienvenue dans l'after balle au pied. Aujourd'hui, nous allons analyser l'influence de Zinedine Zidane dans l'image populaire du sport collectif. Jean-Ré Séguier est avec nous. Bonjour Jean.
Oui, bonjour. Écoutez, je pense que l'analyse philosophique de l'apport de Zinedine Zidane dans la cosmogonie sociale de la France d'aujourd'hui peut se décrire en réécoutant les arguments ontologiques de Pierre Bourdieu. On le voit dans sa relation avec Benzema.
Merci Jean. Éric Dimeco, votre avis?
C'est pas possible, Jeannot, tu peux pas dire ça quand même. Je vais te dire, je pense même que Simone de Beauvoir aurait éclaté de rire en entendant ses arguments. Pour moi, Zidane est à Benzema ce que Jean-Paul Sartre est à l'expansion de la pensée néo-communiste.
Et Soren Kierkegaard alors, il pue le pâté? Soren Kierkegaard, t'en fais quoi de l'influence de Soren Kierkegaard sur Gilles Deleuze?
Non, désolé, ils ont jamais bien combiné ensemble. C'est connu.
Voilà, la nouvelle France Inter est en marche.
Bravo,
merci. Ils sont beaux tous les deux. Bravo. les applaudit.
Arnaud, on change de sujet. À Échenon, le maire fait partie de ces 48 hommes interpellés pour pédopornographie mi-novembre. Il refuse de démissionner alors qu'il a reconnu une partie des faits.
Oui, alors lui, il dit que tant qu'il n'y a pas de jugement, il est présumé innocent. Bon, quand les flics viennent chez toi avec ton historique internet, qu'ils ont chopé 47 de tes copains et que tu admets toi-même que t'es un peu mouillé dans cette histoire, on veut bien présumer que t'es innocent, mais tu présumes aussi un peu trop qu'on est des cons. Hein, présumé innocent, ça veut pas dire chat perché, je fais ce que je veux. Ce maire est accusé d'avoir consulté 10 000 contenus pédopornographiques sur une année, ça fait quand même 27 par jour. Même Marc Dutroux, il trouve que c'est trop. On dit que c'est un maire pédophile, mais à 27 vidéos par jour, t'es quand même plus pédophile que maire, quoi. On dit le maire d'Échenon est pédophile, c'est pas vrai. C'est le pédophile d'Échenon qui est un peu maire à ses moments perdus. Et alors, il veut pas partir, le gars, il est là. Non, je peux pas, j'ai trop de travail. Il y a le Noël de la collectivité à boucler. En plus, personne voulait faire le Père Noël cette année pour distribuer les papillotes et prendre les enfants sur les roues. J'ai promis de le faire. Je peux pas partir quand la ville pile a besoin de moi, ça reste un professionnel. Et maintenant, Apolline, partons pour de nouvelles aventures dans notre ville préférée. Je vois que vous êtes habillée en cuir.
Ouais.
Vous attendez donc le nouvel épisode des aventures de
Saint-Étienne.
Et Saint-Étienne, et oui, évidemment.
Oui, parce qu'un nouvel article de Mediapart, je l'ai lu intégralement hier.
Ah, il est édifiant,
il est inouï cet article, cette enquête est incroyable, qui est sortie donc pas plus tard qu'hier au sujet du maire Gaël Perdriau, accusé de chantage à la sextape.
Cuir moustache. Cuir,
voilà,
cuir,
après Échenon, c'est la fête des mères aujourd'hui. Alors, attachez vos ceintures, passez votre torse à l'huile de Monoï. On repart dans la Dallas de la Loire, avec cette fois un nouveau personnage qui arrive dans la saga, Laurent Wauquiez.
Eh oui.
Bon, alors je dois vous avouer que j'étais un peu déçu à la base, un peu comme n'importe qui le serait en voyant arriver Laurent Wauquiez. Mais Mediapart révèle que Gaël Perdriau a essayé, accrochez-vous, de faire croire à son adjoint que Laurent Wauquiez était pédophile. Voilà, la fête continue. Franchement, pour attaquer Laurent Wauquiez, c'est pas les angles qui manquent en plus. Des défauts, il en a déjà plein, il y en a beaucoup, c'est pas la peine d'en inventer. Qu'est-ce qu'il a encore dans la musette, l'ami Gaël? Valérie Pécresse qui fait de la pole dance, Bruno Retailleau stripteaseur, Éric Ciotti qui aurait joué dans ces pornos étranges où il y a des nains. Maintenant, c'est que tous les républicains veulent le voir dégager maintenant. J'ai envie de lui dire, Gaël, ne démissionne pas. Tiens le coup, il y a trop de chroniques formidables qui nous attendent. On est avec toi, Gaël. Gaël, reste, toute la nouvelle France Inter est derrière toi. Allez, à demain.
À demain, Arnaud Demanche. Un bonheur de vous retrouver chaque matin, 7h20, 8h20 sur RMC et en podcast, bien sûr. Il est 8h24, sans transition, dans un instant, l'interview politique. À 8h30, ça se passe sur RMC et BFM TV. Mon invité, c'est Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Des questions très très concrètes. Hein. On est tous angoissés depuis hier à l'idée qu'il va y avoir des délestages, des coupures d'électricité dans toute la France. Les réponses sur ce scénario du gouvernement, c'est dans un instant.
RMC, 6h39,
Apolline Matin.